Oula.
Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8, tous les mercredis en direct, de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Ondes Femmes, dans Radio Zone, sur Radio Zone 93.8 FM, comme tous les mercredis. Et tout de suite, c'est Remue-ménage de 17h à 18h30. Aujourd'hui, dans Remue-ménage, eh bien, je vous propose de partager avec moi la rencontre que j'ai faite la semaine passée, lundi 26 avril pour être précise, avec Khadija Hamdi. Khadija Hamdi qui est une femme sahraoui de la République sahraoui. Donc sur l'ancien Sahara occidental, qui a proclamé son indépendance et qui aujourd'hui doit se battre pour que se réalise enfin le référendum décidé par l'intermédiaire de l'ONU pour savoir si le peuple sahraoui va accepter son indépendance ou s'il préfère être intégré au royaume du Maroc, le royaume du Maroc qui fait tout ce qu'il peut pour empêcher l'indépendance de cette région du monde. Et le peuple sahraoui se bat depuis de nombreuses années, entre autres aux côtés... Elles sont conscientes qu'elles sont vraiment... pour obtenir enfin la réalisation de leur indépendance après avoir vécu déjà de nombreuses années sous la colonisation espagnole. Et de nombreux sahraouis et de femmes sahraouis sont prisonniers et prisonnières aujourd'hui dans les geôles marocaines, subissant souvent un isolement dramatique. On connaît la situation d'ailleurs de beaucoup d'opposants marocains qui est aussi gravissime, mais celle souvent des femmes et des hommes sahraouis l'est encore plus dans la mesure où ils sont encore plus isolés et souvent leur situation est moins connue au niveau international que celle des prisonniers d'opinion marocains. Alors tout de suite, je vous propose de vous mettre dans l'ambiance au son d'une danse berbère. Peut-être est-il bon de rappeler un certain nombre de données concernant tout simplement l'histoire et la géographie de la République sahraoui. Elle se trouve au nord-ouest de l'Afrique, entre le Maroc et la Mauritanie et l'Algérie. Le pays a 1500 km de côte sur l'océan Atlantique. C'est un petit pays de 266 000 km², une capitale, El Aaiun. Aujourd'hui, selon un... recensement fait par les Espagnols, une population évaluée à de 500 à 700 000 habitants. La langue, c'est une langue arabe particulière qui s'appelle le Hassania, la religion musulmane. Il y a beaucoup de richesses du sous-sol, ce qui intéresse bien évidemment les Marocains. Et c'est le troisième plus grand producteur de pêche du monde. et la lutte menée depuis 1973 par le peuple est menée par le Front Polisario. Alors rappelons rapidement qu'en 1884, donc il y a plus d'un siècle, les Espagnols pénétraient dans ce qu'on appelait à l'époque le Sahara occidental. En 1967, l'ONU reconnaissait le droit au peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Et en 1970, le peuple sahraoui se soulevait contre le colonialisme espagnol. L'ONU va ensuite réadopter de nouvelles résolutions insistant sur l'indépendance du Sahara occidental plusieurs fois. Il va falloir créer le Front Polisario en 1973 pour déclencher réellement une lutte contre la colonisation. Et suite à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU, la Cour internationale de justice de La Haye donne son avis consultatif sur le Sahara occidental et elle estime qu'il n'y a aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental, le Maroc et la Mauritanie et donc qu'il faut absolument reconnaître le principe de l'autodétermination de cette région du monde. Beaucoup de Sahraouis vont devoir fuir l'agression militaire maroco-mauritanienne en 1975, puisque le Maroc, l'Espagne et la Mauritanie vont signer un accord comme quoi ils se partagent en deux le Sahara occidental et son peuple. Donc beaucoup de Sahraouis, plus de 165 000, fuient le pays et vont vivre, et ils sont toujours aujourd'hui, dans des camps de réfugiés en Algérie. En 1980, l'Assemblée générale de l'ONU toujours adopte une résolution qui réaffirme le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance et demande au Maroc de s'engager dans une dynamique de paix et de mettre fin à l'occupation du territoire du Sahara occidental. Et la résolution insiste sur la nécessité d'une solution politique grâce à des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario. L'OUA, l'Organisation d'unité africaine, va elle aussi adopter à l'unanimité un plan de paix pour soutenir cette indépendance. En 1984, est proclamée la République arabe sahraoui démocratique et elle est acceptée au sein de l'OUA. En échange, le Maroc quitte l'OUA. Et c'est finalement en 1991, que le Conseil de sécurité de l'ONU va ratifier un plan de paix qui a enfin été accepté entre le Front Polisario et le Maroc. Un cessez-le-feu est fixé au 6 septembre 1991 et un référendum d'autodétermination doit se dérouler normalement en janvier 1992. Un contingent de l'ONU arrive au Maroc et même une unité médicale suisse en fait partie. Mais depuis ces dates-là, on assiste à toute une série de blocages de la part du Maroc. Le matériel des forces de l'ONU est même retenu dans les ports marocains. Le cessez-le-feu est violé fréquemment par le Maroc, entre autres l'espace aérien, le renforcement des ouvrages militaires et des déplacements de populations marocaines en République sahraoui pour essayer de fausser le vote lors du référendum. Donc le plan de paix est complètement ensablé. Nous sommes dans le désert, rappelons-le, mais c'est une image très politique. Une partie de la population sahraoui que le roi du Maroc veut contraindre à l'allégeance vit toujours dans les zones occupées par l'armée marocaine au Sahara occidental. Les sahraouis, chassés par les bombardements marocains, les persécutions et les déportations, ont fui vers le désert très profond. Ils se sont installés dans une région concédée par l'Algérie, près de Tindouf, dans d'immenses campements dont les quatre principaux regroupent les 165 000 réfugiés sahraouis. Dans ces camps de réfugiés, les femmes qui s'occupent principalement de l'organisation de ces camps, d'abord parce qu'il y a principalement des femmes, les hommes étant au front, et qui s'occupent de la vie quotidienne et aussi, bien sûr, des jours de fête, parce qu'il y en a souvent. Les femmes sahraouis sont bien différentes de l'image qu'on se fait des femmes de culture musulmane. Elles ne furent jamais voilées, si ce n'est pour se protéger du sable. Elles sont propriétaires d'une partie du troupeau, de tradition nomade, je vous le rappelle, les peuples du désert. Et les Sahraouis, femmes Sahraouis, peuvent diriger la vie pastorale de la famille pendant que, autrefois, quand il n'y avait pas la guerre, ou maintenant, lorsqu'il y a la guerre, les hommes voyageaient, ou pour le commerce, ou pour la guerre maintenant. Et parfois, ces voyages ou ces départs pour la guerre se sont faits pour des années et des années. Donc certaines d'entre elles étaient fameuses pour leur savoir médical ou leur connaissance du Coran. Leur place a connu un recul pendant la colonisation espagnole. Une partie de la population s'est sédentarisée et les hommes sont devenus salariés. Les femmes se sont donc retrouvées cloîtrées dans la maison, sans rôle économique. Aujourd'hui, les femmes sahraouies vivent une situation paradoxale. Les changements fondamentaux que l'exil a imprimés dans la société sahraouie leur a redonné un rôle essentiel. Elles gèrent les campements, comme je vous le disais, leur économie, leur approvisionnement, leur survie. Elles cultivent des jardins dans un désert préalablement dessalé, tomates en serre, carottes, oignons, choux, etc. Pour le moment, l'essentiel de l'approvisionnement est fourni par l'aide internationale et tout est organisé par le Front Polisario. Dans un premier temps, seuls les hommes avaient des postes de responsabilité dans la structure du gouvernement en exil et bénéficiaient d'un niveau d'instruction universitaire. Mais on voit aujourd'hui de plus en plus de femmes médecins, enseignantes et cadres du Front Polisario. Mais accéder à ces postes de responsabilité reste une question, un enjeu très important pour les femmes sahraouies, longtemps pour la plupart d'entre elles, complètement illettrées. Compte tenu de la liberté dont a joui de temps en temps et de petit à petit la femme sahraouie et des responsabilités que la guerre d'indépendance l'a amenée à assumer, quelle sera l'évolution de sa condition dans un Sahara occidental indépendant, dans la République arabe sahraouie démocratique? Et c'est ce dont nous avons bien sûr discuté avec Khadija Hami, que j'ai rencontrée la semaine passée. Sahraoui, et en particulier pour parler des femmes sahraouies. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire d'abord une petite situation de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la République sahraoui? On sait qu'il a été proclamé la République sahraoui. On sait qu'il devrait y avoir un référendum depuis déjà le début 1992. Et puis, les choses n'avancent pas beaucoup à cause du Maroc qui met toujours le frein à cela. Alors, est-ce qu'on peut à la fois faire le bilan de l'avance politique et puis de la situation dans les camps de réfugiés qui existent toujours, puisque vous ne pouvez toujours pas rentrer en République sahraoui indépendante?
Oui. Vous voyez, il y a presque 2 ans, le peuple sahraoui, et surtout les femmes sahraouies, a estimé retourner chez elles, rentrer au pays sahraoui indépendant. Mais malheureusement, avec ce retard que vit le plan de paix à cause de l'intransigeance du roi du Maroc, à cause des obstacles qui fait devant ce plan, alors ce processus n'a pas eu lieu, dommage à la date qui était précise, la fin de l'année précédente. Bien sûr, ça nous a beaucoup touchés comme femmes. Vous pouvez imaginer la situation de ces femmes qui se préparaient même au retour chez elles, qui se préparaient pour la rencontre de leurs enfants, de leurs parents, de voir leur foyer, leurs biens qu'ils ont quittés il y a 17 ans ou 18 ans. Ça nous a bien touchés et nous avons supporté très mal ce retard, ce qui a fait un retard même au niveau de nos projets politiques, nos projets culturels, nos projets de production en général et surtout aussi au niveau de l'aide internationale, parce que beaucoup de comités de soutien, beaucoup des instances internationales concernées à cette aide humanitaire sont un peu retirées en attendant les résultats du référendum. Le référendum n'a pas eu lieu, dommage, mais le Front Polisario essaye toujours à collaborer, à contribuer ses efforts pour aider les Nations Unies pour aider surtout le Conseil international de sécurité à arriver à une solution juste et durable.
Juste une chose, Radija, est-ce qu'on pourrait préciser si aujourd'hui il y a toujours conflit militaire entre l'armée du Front Polisario et la monarchie marocaine?
Non, maintenant, la situation est stable du point de vue militaire parce que, vous savez, il y a eu un cessez-le-feu il y a un an et demi, et en juste le 6 septembre en 1991. Alors, il n'y a pas de conflit militaire. Il y a la MINURSO qui s'occupe des zones occupées, des zones libres, c'est-à-dire la zone est maintenant sous contrôle des Nations Unies, malgré la violation de l'armée.
La MINURSO, c'est les troupes, de l'ONU.
Les troupes des Nations Unies chargées de l'application du référendum au Sahara. J'ai dit qu'il n'y a plus de conflit malgré la violation de l'armée marocaine de cesser le feu.
Alors aujourd'hui, s'il n'y a plus de conflit, qu'est-ce qui empêche les gens qui sont dans les camps de réfugiés en Algérie, près de Tindouf, je crois principalement, de retourner chez eux?
Vous voyez, ce retour ne peut pas arriver avant que le référendum aura lieu, parce que le référendum aura l'occasion pour ces réfugiés, pour ces gens, à la fin, pour exprimer ou bien s'exprimer, à choisir l'indépendance nationale ou l'intégration totale à la royaume marocaine. Alors, il faut attendre le résultat du référendum pour que ce peuple puisse rentrer chez lui.
Mais il y a un très grand nombre de réfugiés dans les camps, je crois, quelque chose comme 70 000 personnes.
Plus de 165 000 personnes qui sont en train de vivre là depuis 1965-1976.
C'est presque la moitié de l'ensemble des habitants de la République sahraouine. Non, il y a actuellement entre 500 000 et 600 000 habitants.
C'est presque un million, mais vous voyez, il n'y a pas eu de recensement. Juste de recensement précise, parce que le seul recensement qu'il y a été, c'était en 1974 par le colonialisme espagnol, et c'est un recensement qui n'a pas touché toute la population sahraoui. Il a touché seulement les deux à trois grandes villes, Laayoune, Smara et Dakhla. Il n'a pas recensé les nomades, les gens qui étaient hors du pays à l'époque, les réfugiés ou bien les immigrés sahraouis dans d'autres pays, soit maghrébins ou européens. Alors c'est un recensement un peu, qui n'a pas fait le recensement général du pays. Après, c'était la guerre. Depuis 1973, c'est la guerre. Alors les recensements qui ont été faits par la HCR et les instances concernées de l'aide humanitaire en 1976-77, ce qui a donné le chiffre 165 000 réfugiés.
Est-ce que tous ces gens qui n'ont pas été recensés, et en particulier les gens des camps de réfugiés dont on sait très bien qu'ils existent, auraient droit, selon l'ONU, à participer au référendum? Ou c'est seulement les gens qui actuellement vivent sur le territoire saharaoui?
Oui, c'est ça le problème. Et le point chaud qui fait l'obstacle de ce référendum, parce que au début, le Maroc et le Front Polisario ont accepté comme base de vote le recensement espagnol de 1974. Mais qu'on a commencé les démarches, le Maroc commence à voir élargir les listes des votants. Maintenant, le Front Polisario tient toujours ou bien s'attache toujours à ce recensement espagnol, malgré qu'il ne présente pas tous les Sahraouis. Et le Maroc travaille pour que les Nations Unies acceptent l'élargissement de ces listes. Pour nous, c'est un problème qui ne va pas terminer, parce que le Maroc veut faire rentrer des milliers de Marocains pour voter. Alors c'est un piège, vous voyez, c'est un piège et c'est une mer, si vous voulez, de votants qui n'auront pas le droit de le faire. Alors la seule solution qui reste devant les Nations Unies, c'est de garder le recensement espagnol comme base et surtout pour faciliter le problème ou bien le travail technique de la MINURSO, surtout du point de vue administratif, sinon on ne va pas y sortir.
Alors aujourd'hui, très concrètement, en 1993, avril 1993, quels sont les objectifs, les préoccupations essentielles de vous, par exemple, Khadija? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus et qu'est-ce qui vous a fait venir en Europe, faire le tour de très nombreux pays, fait donner de nombreuses interviews, rencontrer beaucoup de gens, ce qui doit être très fatigant?
Oui, vous voyez, c'est une visite qui fait partie d'une tournée, une grande tournée de femmes sahraouis, de messagères sahraouis, si vous voulez dire, en Europe. On était déjà, bien sûr, d'autres femmes qui étaient en Espagne, en Belgique, en Italie, en Hollande, en Suède, en Grande-Bretagne et maintenant en Suisse. Bien pour objectif, c'est premièrement d'expliquer le plan de paix qui est le coupable de ne pas avoir arrivé à atteindre une solution de ce conflit. Expliquer la responsabilité historique du roi du Maroc comme obstacle devant cette volonté internationale et cette volonté sahraoui, et demander à l'opinion internationale, à l'opinion suisse, hein, de faire une pression sur le roi Hassan II, sur le gouvernement marocain, afin qu'il se trouvera disponible à aider, à contribuer ses efforts avec les Nations Unies, avec le Front Polisario en faveur du droit, bien, le droit de notre peuple. Deuxièmement, c'est d'expliquer la situation que vivent maintenant nos femmes, nos enfants, nos hommes, et surtout dans le campement des réfugiés. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, que ce retard a bien touché la vie sociale, la vie culturelle, la vie politique et même la vie psychologique des gens. Bien sûr, maintenant, nous avons pu commencer de nouveau, je peux le dire, nous avons eu le courage de continuer de nouveau, comme s'il y a rien. C'était difficile, mais tout le monde a pris de nouveau la même morale, la même volonté de continuer. Et surtout, vous voyez, après quelques jours, et en juste le 20 mai, on va fêter la 20e anniversaire de la lutte contre le colonialisme espagnol et contre l'agression marocaine. 20 ans, ce n'est pas facile dans la vie d'un peuple ou bien dans la vie des femmes sahraouis, mais aussi l'important que ça sera bien un pas très historique aussi, très important pour réviser ce qu'on a fait pendant ces années et surtout au niveau de l'action des femmes sahraouis. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Qu'est-ce qu'elles souhaitent? Et surtout pour l'avenir. La troisième des choses comme objectif toujours, c'est ce que vous savez, que c'est la première fois que les femmes sahraouis, avec le processus de paix, commencent à penser à l'avenir. Penser à l'avenir, peut-être c'est une chose très importante, ce que pour la première fois pendant la guerre de libération, les femmes d'un mouvement de libération commencent à discuter de leurs soucis de travail, d'égalité, de l'avenir, etc. Et c'est un peu exceptionnel parce que des fois, et comme vous avez vu, pendant d'autres guerres de libération, pendant d'autres, ou bien chez beaucoup de mouvements de femmes, elles ne commencent pas à penser à leurs droits, surtout comme femmes, soit du point de vue d'égalité, droit de vote, code familial et d'autres problèmes, seulement après l'indépendance et après qu'elles tombent dans le piège. Bien sûr, ce n'est pas toujours entendu de parler de ce genre de problème pendant la guerre de libération, parce que c'est peut-être, et comme les gens pensent, que ce sont des choses qui ne sont pas utiles, ne sont pas importantes, c'est vrai. C'est
vrai. Pas prioritaire.
Pas prioritaire, parce qu'il y a un autre objectif qui est très grand, qui est très primordial, c'est l'indépendance nationale. Ça, c'est vrai, mais aussi nos problèmes comme femmes sont aussi principaux, et surtout que nous sommes des femmes, que nous avons pris les grandes charges pendant cette guerre. Nous étions face à la face devant de grandes responsabilités, devant de grandes charges. Et surtout, si vous savez que nous étions des femmes bédouines, des femmes ignorantes, des femmes sans spécialité, mais malgré ça, même malgré ça, nous avons pu faire beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas facile pour nous de laisser faire tomber si facilement. Alors, nous sommes là à Genève pour discuter avec beaucoup d'amis suisses de ces soucis. Comment les femmes suisses, soit à travers des organisations féminines, ou bien à travers les médias, ou bien à travers les associations humanitaires, peuvent nous aider, soit avec des pensées, soit avec de l'expérience, soit aussi au niveau de la formation de ces femmes pour qu'elles puissent garder la présence et pour qu'elles puissent aussi garder la place demain. Parce que cette place demain, il faut aussi savoir que seulement avec une formation solide, avec des spécialités scientifiques, technologiques, que la femme sera capable de rester sur place. Sinon, elle va tout perdre.
Khadija, si vous avez ces craintes, merci. Depuis un moment, vous avez dû entendre des bruits étranges au fond. C'était une amie sahraoui qui nous préparait le thé et nous avons la chance de le partager. Khadija, si vous avez ces craintes sur que va devenir la femme sahraoui dans le futur, est-ce qu'elle risque de perdre tout ce qu'elle aura acquis dans son travail immense fait dans les camps de réfugiés? C'est parce que vous pensez à ce qui est déjà arrivé, par exemple, aux femmes algériennes qui ont beaucoup participé à la guerre d'indépendance et qui se retrouvent aujourd'hui sous le voile.
Après la Deuxième Guerre mondiale, des femmes des mouvements de libération en Afrique, par exemple, en Amérique latine, ça passait partout. Alors peut-être nous avons eu de la chance d'être parmi les derniers mouvements de libération à savoir beaucoup d'expériences vécues avant elles. Et c'est très important. Aussi, nous avons eu l'occasion de ce temps, de ce temps où il y a eu le cessez-le-feu, une période où il n'y a pas de guerre, mais il n'y a pas de paix en effet. Mais c'est une période qui est très importante pour nous femmes de penser à beaucoup de choses. Si nous étions dans une situation différente, nous n'aurions pas l'occasion d'y penser.
Alors peut-être qu'on va reprendre les objectifs qui concernent vous, femmes, sahraoui spécifiquement, parce que c'est vrai que c'est cela qui nous intéresse particulièrement, nous, ici, dans Onde Femmes. Bien sûr, le rôle que nous pouvons jouer éventuellement comme pression sur le gouvernement suisse nous importe, bien évidemment. Mais je pense qu'effectivement, le rôle essentiel d'échange, on peut l'avoir en parlant entre femmes. Alors, peut-être avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels ont été les grands acquis des femmes dans les camps de réfugiés? On sait déjà un petit peu, grâce au travers de livres comme celui de Christiane Perrego sur les femmes sahraouis, que vous avez dans les camps construit par exemple une école où les femmes se sont formées petit à petit, ont appris non seulement à lire, à écrire, mais ont acquis des formations professionnelles. Et peut-être aujourd'hui, vous vous posez la question de formation, comme vous le disiez, beaucoup plus avancée que celles qui ont été données dans un premier temps. Il y a eu le fait de savoir faire fonctionner un camp avec 165 000 personnes. C'est vrai que c'est une communauté gigantesque, donc comment ça fonctionne? Pourquoi les femmes ont été responsables principalement d'organiser cette vie à l'intérieur des camps et comment ça s'est fait et qu'est-ce que vous avez gagné aujourd'hui? Danse berbère dédiée à la femme, danse de la féminité. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Et aujourd'hui, nous écoutons l'entretien que nous avons eu avec Khadija Hamdi. Khadija Hamdi qui est Sahraoui. Les femmes Sahraouis qui, en délégation, font à l'heure actuelle une grande tournée en Europe pour faire connaître leur situation. Et nous les avons rencontrées lundi passé. Et c'est Khadija qui s'exprime en français.